Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 la ministre des Solidarités et de la Santé. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour Nicolas Demorand.
Bon, beaucoup de questions à vous poser ce matin, de questions factuelles pour commencer, car ce sont les faits qui ont posé problème depuis l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, les faits qui ont alimenté la défiance. Première question simple, pourquoi l'État a-t-il mis 5 jours à publier la fameuse liste des produits qui se trouvaient dans l'usine ?
Alors, d'abord, il a fallu la demander aux responsables de l'usine.
Vous ne l'aviez pas ? L'État ne l'avait pas ?
Non, l'État n'a pas la liste, c'est les responsables de l'usine qui l'ont. Comme vous le savez, ces listes ne sont pas rendues publiques habituellement en raison des risques attentats pour que des gens ne viennent pas chercher des produits toxiques et ne sachent pas ce qu'il y a dans ces usines Seveso. Donc la loi permet pas d'avoir ces données publiques. Donc il a fallu la demander à l'usine, il a fallu que l'usine la traduise en termes de formules, de façon à ce qu'on comprenne exactement quels sont les éléments présents dans l'usine, qu'on connaisse leur toxicité, donc tout cela est rendu public, et il va falloir maintenant comprendre comment se comportent ces composants lorsqu'ils brûlent.
Mais donc l'État, les pouvoirs publics n'ont eu l'information précise qu'hier?
Oui, nous étions en mesure de publier une liste de produits avec leur définition, leur formule, que hier. Et donc ça a été rendu public lorsque ça a été connu.
Vous reconnaissez que ça a tardé ?
Oui, moi je pense que ce qui compte avant tout, j'entends la question, mais qu'est-ce qu'on fait de cette liste ? En réalité, aujourd'hui, personne ne sait exactement, et c'est la demande que nous allons faire à l'INERIS, qui est l'agence chargée de l'évaluation des risques industriels, personne ne sait vraiment ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. Donc ce qui était plus important, à notre avis, c'est de vérifier que des produits hautement toxiques n'étaient pas dans les fumées, dans les suies, ou dans l'eau. Et donc c'est la première chose que nous avons faite, et ça a été rendu public bien en amont. C'est-à-dire dès vendredi, nous avons été capables de parler de la qualité de l'air. Dès samedi, nous avons publié ce que nous avions sur les suies que les gens trouvaient à leur domicile. Et en réalité, c'est ça qui compte. C'est le produit fini. C'est qu'est-ce qu'on trouve dans son jardin.
Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans son jardin? En tout, plus de 5200 tonnes de produits chimiques ont brûlé dans cet incendie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin s'il y a un risque que ces produits soient nocifs, toxiques, polluants, cancérigènes ?
Alors, aujourd'hui, je dis ce que je sais. C'est-à-dire que nous avons cherché les produits les plus communément trouvés après un incendie dans une usine qui contient des hydrocarbures ou des dérivés d'essence ou de lubrifiants. Et donc, les produits les plus dangereux, les plus habituels, sont les hydrocarbures polycycliques qui sont des produits éventuellement cancérigènes. C'est la première chose que nous avons cherché à la fois dans les fumées et à la fois dans les suies. Et là, nous pouvons dire qu'il n'y en a pas. En tous les cas, quand on en trouve, c'est en dessous des traces, en dessous des seuils habituels, c'est-à-dire des contaminants habituels de l'environnement. Ensuite, nous avons cherché l'amiante. Et sur l'amiante, parce que le toit de l'usine était en amiante. Et donc, nous avons cherché l'amiante, des fibres d'amiante dans l'environnement, dans l'air et dans les suies. Sur un rayon de 300 mètres autour de l'usine, il n'y en a pas au-dessus des seuils admis dans l'environnement. Et nous allons élargir maintenant la recherche d'amiante au-delà des 300 mètres. Mais s'il n'y en a pas dans les 300 mètres, il est vraisemblable que nous n'en trouverons pas après au-delà. Mais nous allons de toute façon faire cette recherche. Le troisième toxique que nous recherchons, c'est la dioxine, qui est aussi un produit très dangereux. Et ça, nous aurons les résultats au fur et à mesure dans la semaine, avec les derniers résultats demain et après-demain. Et dès que nous aurons ces résultats de la dioxine dans l'air ou dans les suies, ils seront rendus publics. Après, il y a des choses que je ne sais pas, c'est-à-dire que l'INERIS, l'agence responsable des risques, doit me dire à quoi on peut s'attendre quand une usine avec plus de 300 produits toxiques brûle. Et ça, l'État aujourd'hui ne peut pas répondre à cette question.
C'est vrai que vous n'êtes pas censé absolument tout savoir très vite, mais quand même, il y a des gens qui nous écoutent ce matin, il y a des gens qui nous écoutent à Rouen. Alors les questions sont très simples. Est-ce que l'air de Rouen qu'on respire ce matin est pollué ?
Alors aujourd'hui, l'air est revenu, et il est d'ailleurs depuis le début, il est respirable. C'est-à-dire que l'air de la fumée, pour les éléments que nous avons aujourd'hui, est un air de combustion. C'est-à-dire que c'est une fumée de carbone comme un feu de cheminée. Nous n'avons pas trouvé dans cette fumée les polluants les plus à risque et que nous avons recherché en premier. D'autres analyses suivront, notamment la dioxine, je l'ai dit, et aujourd'hui l'air à Rouen est un air qui a la qualité de l'air normal à Rouen.
Est-ce que l'eau est potable ?
Alors, l'eau est potable depuis le premier jour, nous le savons, parce que l'eau est prélevée dans des nappes souterraines et elle n'a pas été polluée à aucun moment. Et ça, toutes les communes aujourd'hui sont formelles sur la potabilité.
Vous revenez sur le mot de dioxine. C'est vrai que ce mot revient beaucoup parce que c'est ce qui fait peur apparemment. S'il n'y a pas de dioxine dans l'air, le risque, n'y a-t-il pas un risque que les dioxines descendent dans le sol, polluent les sols et les ruissellent d'eau du sol, et est-ce que là, il y a un risque sérieux ?
Alors, c'est la raison pour laquelle nous cherchons la dioxine dans les suies, c'est-à-dire dans les retombées de la fumée. Et donc, s'il n'y en a pas dans les suies, il n'y en aura pas dans le sol. Et c'est pour ça que nous attendons avec impatience, je dirais, les résultats de la dioxine qui vont être rendus aujourd'hui, demain et après-demain, ça dépend de la date du prélèvement. Et c'est normal que ce soit long, c'est un produit qui est compliqué à retrouver, d'où le délai par rapport aux autres toxiques que nous avons recherchés dès le départ.
Vous y êtes allée vendredi dernier, Madame la Ministre, et vous avez déclaré « oui, la ville est clairement polluée ». Est-ce que vous nous le répétez ce matin ?
Mais évidemment, moi je suis comme les habitants de Rouen. La ville est noire, il y a de la suie, il y a évidemment un impact de cet incendie sur la ville. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir si cette pollution entraîne un risque pour la santé.
Alors précisément.
Moi, c'est mon seul objectif, c'est de pouvoir dire aux gens, vous ne risquez rien ou vous risquez quelque chose, et de l'évaluer. Et donc, j'ai évidemment, comme tous les habitants de Rouen, dit la ville est polluée. Je ne vais pas commencer à nier l'évidence.
Oui, le problème, c'est là où il y a eu un petit couac de communication, si vous pouvez me permettre, c'est que vous avez dit ça et quelques heures après, une autre ministre, Elisabeth Borne, est venue dire circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Vous reconnaissez qu'il y a eu, disons, des sons de cloche un peu contradictoires.
Mais c'est parce que ça dépend de ce qu'on met derrière le mot pollution. Est-ce cette pollution, c'est-à-dire cette suie qu'on voit, qui est là, qui est noir et que les gens ont commencé à nettoyer fort heureusement dès vendredi, est-ce qu'elle a une dangerosité ? Et c'est ça que nous évaluons aujourd'hui. Est-ce que c'est un danger ? Aujourd'hui, les premiers éléments sur les toxiques les plus habituels, les plus dangereux, sont rassurants. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura rien, puisque des analyses sont toujours en cours. Mais les premiers résultats sont rassurants. Et donc, cette pollution qui est réelle, pour l'instant, elle n'entraîne pas de risque pour la santé avec ce que nous connaissons aujourd'hui.
Allez-vous, certains le demandent, et c'est dans le prolongement de ce que vous venez de dire, mettre en place un suivi médical de longue durée, comme ce fut le cas après AZF ?
Alors, aujourd'hui, j'ai saisi l'agence de santé, les agences de santé publique et l'INERIS pour me faire une évaluation des risques sanitaires. Et eux, ils ont besoin des résultats, des prélèvements. Pour évaluer le risque, il faut qu'ils sachent ce qu'il y a dans l'air et dans les suies, c'est-à-dire au
contact
de la
population. Donc vous nous dites patience, c'est ça ?
Non, et donc ils vont me faire cette évaluation des risques sanitaires sur la base des prélèvements et des résultats des prélèvements. Et évidemment, mettront en place un suivi adapté aux risques sanitaires qu'ils vont évaluer. Mais aujourd'hui, tant que je ne sais pas quel est le risque à moyen et long terme, c'est-à-dire tant que je n'ai pas la certitude qu'il n'y a absolument rien dans aucun prélèvement, évidemment, il y aura un suivi de la population si besoin.
Seriez-vous favorable, Agnès Buzyn, à ce qu'une commission d'enquête parlementaire remette tout à plat et réfléchisse à cet épisode ?
Il y a de toute façon des parlementaires qui veulent une enquête parlementaire et je trouve ça très bien parce que l'État n'a rien à cacher, les autorités n'ont rien à cacher. D'ailleurs, je ne sais même pas quel serait l'intérêt des autorités et notamment des autorités sanitaires de cacher des choses. Donc c'est très bien une enquête parlementaire. Ça permet de montrer ce qu'on a fait et je pense que le préfet a pris les très bonnes décisions dès le départ parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans les fumées, il ne savait pas ce qu'il y avait dans la suie. Il a demandé à la population de se mettre à l'abri en attendant d'avoir les premiers résultats et il a demandé à la population de ne pas toucher avec les mains les suies, de mettre des gants, de laver à grande eau. Donc je trouve.
Mais vous comprenez que c'est ça le message contradictoire, il est là. C'est qu'en fait, vous dites tout va bien, vous dites pas ça, mais vous dites l'air est respirable, l'eau est potable, et en même temps, vous ne pouvez pas manger ce qui vient du sol,
les légumes
qui viennent du
vous
sol, vous devez mettre des
lait.
Gants. Vous comprenez que le message est difficile à comprendre.
Oui, je comprends parfaitement. Les gens ne comprennent pas pourquoi on dit prenez des précautions et l'air est respirable, et par contre, pour l'alimentation, attendez. Mais Tout le monde peut comprendre que le risque qu'on prend quand on respire certains toxiques n'est pas le même que celui qu'on prend quand on mange d'autres toxiques ou quand on touche d'autres produits. Et donc, en réalité, nous sommes obligés d'évaluer trois types de risques. Les produits inhalés, c'est-à-dire les produits respirés, les produits au contact, au toucher, et les produits qui seront éventuellement ingérés, c'est-à-dire mangés. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes produits et les mêmes toxicités. Donc, en réalité, ce qui est mal compris par la population, c'est qu'on applique un principe de précaution. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas certain que dans l'alimentation, il n'y a pas éventuellement de la dioxine, eh bien, on ne permet pas de manger les aliments.
Mais est-ce que vous reconnaissez tout de même, Agnès Buzyn, ce matin, que l'exécutif a raté la communication autour de cette crise? Écoutez, information et communication.
Moi, j'ai pas envie de faire des commentaires.
Retour d'expérience, comme on dit.
Il y aura un retour d'expérience de la communication.
On peut déjà faire un petit bilan d'étape.
Il y aura un retour d'expérience de la communication. Plus il y a de personnes qui communiquent, plus c'est évidemment compliqué d'avoir une parole unique, comprise par la population.
Alors, est-ce que c'est pas ça le problème? C'est que vous avez été trop nombreux à communiquer?
C'est peut-être une des leçons qu'on doit retenir, mais c'est vrai que les agriculteurs ont besoin d'entendre Didier Guillaume, spécialistes de l'environnement et des risques ont besoin d'entendre Elisabeth Borne sur les produits chimiques qui sont stockés dans l'usine. Moi, je parle aux gens de leur santé, et le vocabulaire qu'on utilise n'est pas forcément le même en fonction des personnes qu'on souhaite toucher, à qui on parle. Donc, il y aura un retour d'expérience, et puis ensuite, les psychologues, les sociologues, les éditorialistes politiques expliqueront pourquoi la population aujourd'hui, pourquoi les Français ont du mal à accepter la parole publique.
Il faut peut-être réécrire un protocole d'information des populations dans ce genre de situation. Parce que là, en voyant les choses, on a l'impression qu'il n'y en a pas.
En réalité, il y en a. Il y en a, sauf que je pense que dans les accidents comme AZF ou la plupart des accidents ou des catastrophes industrielles, parce qu'on parle d'une catastrophe industrielle dont on espère qu'elle ne sera pas une catastrophe environnementale voire sanitaire, mais cette catastrophe industrielle, elle est gérée normalement par le ministère de l'Environnement, et donc on se préoccupe des risques locaux sur place dans l'usine, d'explosion, les risques pour les travailleurs, et on s'occupe de l'environnement, et souvent la santé vient en troisième lieu. Or, en réalité, on s'aperçoit très vite que la santé est la première préoccupation, et c'est peut-être là où il faut renforcer le rôle du ministère de la Santé.
Votre message est entendu. Une dernière question, on entendait Delphine Bateau hier qui disait que c'était la pire catastrophe sanitaire en France depuis AZF. Vous êtes d'accord avec ça?
Sanitaire, je ne sais pas. Industriel, c'est certain. Environnemental également, mais sanitaire, nous sommes en train d'évaluer le risque sanitaire. Donc avant de le dire, je souhaite que non, et nous mettons tout en œuvre pour que ça n'en soit pas. Les évaluations sont rassurantes au fur et à mesure qu'elles tombent, mais nous n'avons pas encore tout.
On a énormément de questions encore, Agnès Buzyn, à vous poser. Je voudrais donner la parole à Michel au standard de France Inter, précisément sur ces questions de santé. Bonjour Michel et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour madame la ministre. Je me permets de vous poser cette question. C'est l'interrogation sur les femmes enceintes et sur éventuellement les conséquences sur la formation de leur futur enfant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Et
des risques de malformation ou de maladies à venir.
Question qui porte sur la région de Rouen, je le reprécise. Merci Michel. Agnès Buzyn vous répond.
Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments qui fasse craindre des toxiques pour les fœtus et le développement des bébés pour les femmes enceintes. Donc ça, ce sont les premières choses qui ont été recherchées. Et donc, pour l'instant, avec les résultats que j'ai, il n'y a pas d'éléments d'inquiétude. J'attends donc le résultat de la dioxine. Ça, nous l'aurons jeudi ou vendredi pour les premiers prélèvements.
Toujours à Rouen, Bertrand est en ligne. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour
monsieur. Ma question, c'était... Étant donné maintenant qu'on connaît, que vous connaissez et que nous connaissons la liste des produits stockés chez Lubrizol, qui prennent encore feu, qui sont encore en combustion pour certains, comment peut-on envisager collectivement, mais vraiment collectivement, je ne porte pas la responsabilité sur vous, comment peut-on envisager collectivement la réouverture du site?
Merci Bertrand pour cette question qui nous venait donc de Rouen. Agnès Buzyn vous répond.
Alors, Aujourd'hui, la priorité, c'est de sécuriser le site. Le site est extrêmement pollué. Autant dans la ville de Rouen, il n'y a pas eu de retombées qui, pour l'instant, font craindre une toxicité dans les suies ou dans l'air. Autant sur le site même, il y a beaucoup de fûts endommagés. Il y a du benzène et il y a aujourd'hui la nécessité purifier le site avant que les travailleurs puissent retourner sur le site. Et d'ailleurs, une sorte de bulle va être posée au-dessus des fûts endommagés de façon à pouvoir aspirer tous les produits toxiques sans contaminer leur.
Mais à terme, elle va rouvrir l'usine ?
Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui et je ne suis pas suffisamment spécialiste des risques industriels pour vous en parler.
Alors, il faut qu'on revienne sur un certain nombre des points que vous avez développés parce qu'il y a énormément de questions, Agnès Buzyn, sur l'application France Inter. Manu vous demande la chose suivante. Pourquoi est-ce que ça a duré 5 jours d'avoir la liste ? Vous n'allez pas nous faire croire qu'il a fallu 5 jours pour traduire, selon vos mots, une liste alors que c'est une crise industrielle majeure. Sylvie, même thème. La ministre vient de dire une contre-vérité. Pour avoir leur arrêté d'autorisation, les entreprises Seveso doivent donner dans leur demande la liste des produits qu'elles utilisent. Donc, via la préfecture et la DREAL de Normandie, l'État avait la liste des substances. Heureusement d'ailleurs, ajoute Sylvie. Alors pourquoi 5 jours ?
Alors, moi, l'information que j'ai, c'est que la liste, dès qu'elle a été lisible, a été rendue publique, c'est-à-dire traduite avec les noms exacts des produits et leur toxicité, c'est-à-dire pour mettre en regard, pour être totalement transparent, mettre en regard de chaque produit le risque en cas d'exposition cutanée, le risque en cas d'inhalation, etc. Et donc la liste la plus complète et la plus lisible possible pour la population a été mise en ligne quand elle était exhaustive. Maintenant, il est possible que la DREAL l'ait eu avant. Voilà. Je ne peux pas vous répondre, mais il n'y a pas de
soyons clairs. De cacher.
Soyons clairs, Monsieur Demorand, personne aujourd'hui ni n'a la volonté ni n'a l'intérêt de cacher quoi que ce soit.
Comment vous expliquez, c'est une question qui dépasse même ce qui s'est passé là, que vous traversez avec les vaccins, avec la question du diesel, comment vous expliquez que plus vous dites on sera 100% transparent, plus vous dites on ne cachera rien, moins on vous croit ? Qu'est-ce que ça dit de la société ?
Mais là je vous le dis, je pense que c'est aux sociologues d'interpréter cela. Notre pays a fait face à différentes crises sanitaires, on le sait, anciennes, où on a expliqué qu'il y avait l'absence de risque. La première grande crise sanitaire qu'a subi la France, c'est le sang contaminé, c'est la période du VIH, c'était en début des années 80. Et depuis, la parole publique est remise en cause systématiquement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons le devoir, l'impératif d'être totalement transparent. C'est la première urgence en cas de crise. Alors, c'est de tout expliquer, mais surtout de tout montrer.
Transparence toujours à Paris maintenant. Le Parisien indique ce matin qu'il y aurait un problème de plomb dans le chantier de rénovation de la gare d'Austerlitz. Des éléments ont été transmis à l'Agence régionale de santé. Il y aurait des taux de plomb très alarmants qui ont été mesurés à la gare d'Austerlitz par l'entreprise qui travaille actuellement à rénover la gare. Les salariés refusent de reprendre le travail ce matin parce qu'ils estiment qu'ils peuvent vraiment jouer avec leur santé. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Il faut reprendre le travail ou c'est grave ?
Non, moi je laisse évidemment les salariés et leurs syndicats faire jouer leur droit de retrait s'ils le souhaitent. Je crois que l'inspection du travail a été saisie pour qu'elle évalue les risques par rapport à la dose de plomb retrouvée dans la gare. C'est vraiment un problème d'inspection du travail. Ça n'est pas aujourd'hui, il faut le rappeler, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment autour du plomb. Ça n'est pas un risque sanitaire pour la population environnante. On est vraiment sur les travailleurs exposés.
Toujours sur le plomb, et celui qui a fondu lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, à ce micro, Anne Hidalgo, maire de Paris, a dit qu'il y avait des normes pour les gens qui travaillent dans les entreprises, qu'il y avait des normes dans des lieux publics comme les écoles, les crèches, mais qu'il n'y a pas de normes sur tout ce qui est l'espace public, je la cite exactement. J'ai écrit à la ministre de la Santé pour lui dire qu'il y a là plus qu'un trou dans la raquette. Lui avez-vous répondu ? Elle nous avait dit non.
Oui, oui, non, j'ai répondu évidemment. Effectivement, il n'y a pas de normes environnementales pour le plomb, mais c'est pas un problème français. Il n'y a pas de normes environnementales à l'échelon international. Donc, en réalité, on a des normes pour les travailleurs exposés qui sont toujours beaucoup plus importantes que les normes pour la population générale, dans lequel il y a des personnes fragiles et des enfants. Mais ces normes, elles sont connues pour les logements. En cas d'exposition massive de l'air qu'on respire tous les jours chez soi, mais il n'y a pas de normes dans la nature pour le plomb.
Et il faut laisser le trou dans la raquette pour reprendre son expression.
Non, en réalité, c'est un travail qui a été fait immédiatement après l'incident de Notre-Dame. Nous avons essayé de définir quelle était la moyenne de plomb dans l'environnement à Paris, et c'est là où on s'est rendu compte qu'en réalité, Paris était une ville où il y avait beaucoup de plomb, mais probablement comme beaucoup de villes en France et partout dans le monde, parce que l'essence pendant des dizaines d'années contenait du plomb. Et donc en réalité, l'essence des voitures a mis du plomb partout, puis il y a du plomb dans les toitures, il y a du plomb dans les balcons. Donc en réalité, les normes environnementales sont assez élevées à Paris. Donc ce travail.
Donc il n'y aura pas un grand scandale sanitaire qu'on découvrira dans 2 ans, dans 5 ans, sur le plomb à Paris.
Écoutez, on connaît bien, faut aussi à un moment...
Raison garder,
en tous les cas, être scientifique. Nous connaissons très très bien la toxicité du plomb et les maladies liées au plomb. S'il y avait des centaines de personnes malades du plomb en France ou à Paris, ça se saurait. Le nombre de personnes contaminées au plomb à Paris est de l'ordre, je crois, d'une dizaine ou d'une vingtaine par an. Et ce sont toujours des gens contaminés par leur logement, les peintures ou des tuyaux en plomb qui amènent l'eau du robinet et avec une eau contaminée au plomb. Mais ce sont des problèmes vraiment individuel dans des logements spécifiques. Il n'y a pas des centaines de patients qui arrivent avec des contaminations au plomb en France.
Une dernière question sous ce chapitre information du public et principe de précaution, Agnès Buzyn. Les cigarettes électroniques sont à l'origine d'une épidémie de maladies pulmonaires aux États-Unis. 805 cas de maladies pulmonaires, 12 décès. Là encore, même question, est-ce que vous nous dites ce matin qu'il n'y a pas de problème sanitaire avec la cigarette électronique en France?
Oui, nous n'avons aucune remontée de ce type. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, beaucoup de gens utilisent des huiles essentielles, mais le mélange du cannabis. Donc les gens font leur propre mélange. Aujourd'hui, il apparaît clairement que ce sont ces mélanges individuels qui sont en cause. En France, il y a évidemment des normes sur les produits qui sont vendus. Nous avons mis en place un observatoire, recherché s'il y avait des cas. Il n'y a aucun cas qui soit remonté par les hôpitaux ou aux agences sanitaires.
Donc Nicolas Demorand peut continuer de fumer sa cigarette électronique ce matin?
À condition qu'il arrête de fumer réellement. Que ce soit vraiment un outil de sevrage absolu, monsieur Demorand.
Inutile de vous dire, madame la ministre, qu'on est content de vous avoir ce matin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets d'actualité. Encore un, la une du Parisien ne vous a pas échappé. 108 personnalités françaises, Véronique Sanson, Vincent Lindon, Charlotte Gainsbourg, Thomas Piketty, associés à des représentants de patients, réclament un plan d'urgence pour sauver l'hôpital dans une lettre ouverte qui est adressée à Emmanuel Macron et pas à vous. La situation sur le terrain est devenue intenable, disent-ils. Les personnels sont noyés sous les réorganisations, les pénuries d'effectifs et de matériel. Vos 750 millions d'euros sur 3 ans, ça ne suffit pas, disent-ils. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin?
Alors, d'abord, ce n'est pas 750 millions d'euros sur 3 ans. 750 millions d'euros sur 3 ans, c'est pour les 600 services d'urgence. Là, c'est vraiment pour les 600 services d'urgence qui aujourd'hui sont en difficulté. L'hôpital, il est ma préoccupation depuis le premier jour où je suis arrivée. D'abord parce que je suis moi-même médecin hospitalier et que j'ai quitté l'hôpital 3 jours avant d'être ministre. Donc j'ai une vague idée de comment on travaille dans les hôpitaux et de la difficulté. Et je sais à quel point les soignants sont dévoués malgré les conditions de travail. Donc je suis venue avec cette préoccupation-là en tête quand je suis arrivée au ministère.
2 ans après, et vous avez les services d'urgence qui sont toujours en grève, vous avez cette lettre.
Juste terminé. Oui. Depuis que je suis arrivée, j'ai rajouté près de 6 milliards d'euros au budget de l'hôpital. Cette année, le budget de l'hôpital va encore augmenter de 1,5 milliard d'euros en 2020. Donc, le budget alloué à l'hôpital, ce qu'on appelle les tarifs, qui en gros est le financement des hôpitaux, je l'ai rendu positif pour la première fois depuis 10 ans l'année dernière. C'est la première fois depuis 10 ans que les tarifs, c'est-à-dire que les budgets hospitaliers augmentaient, et ils vont encore le faire cette année.
Et vous demandez...
Je suis la ministre qui réinvestit dans l'hôpital.
D'accord, mais vous redemandez aux hôpitaux publics qui sont déjà en difficulté, madame la ministre, de devoir faire encore 800 millions d'euros d'économies. Ça, c'est dans le projet de budget de la Sécurité sociale. Ils disent on ne peut pas, c'est la douche froide, on est en train de crever.
Je rajoute 1,5 milliard d'euros à l'hôpital. J'ai demandé des économies sur les médicaments. Aujourd'hui, je demande des économies à plein de secteurs, au transport.
Vous assumez les 800 millions d'euros d'économies demandées aux hôpitaux publics ?
Non, c'est 800 millions d'euros, c'est pas d'économies. C'est que par rapport à la tendance des dépenses, c'est des dépenses que nous souhaitons ne pas faire. C'est des dépenses que nous souhaitons ne pas faire, mais nous mettons 1,5 milliard supplémentaires cette année, comme nous l'avons mis l'année dernière, parce que je veux que les tarifs augmentent, et ces tarifs vont être en augmentation, c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui avec les responsables des hôpitaux, parce que j'ai besoin de donner du souffle aux hospitaliers. Et je travaille aussi, et c'est très important pour moi, aux conditions de travail, aux rémunérations en début de carrière, à la qualité de vie au travail des soignants, à leur perspective d'évolution, à leur place dans la gouvernance de l'hôpital. Et donc tout cela est en cours et il y aura des changements notables dans l'année qui vient.
La ministre des Solidarités et de la Santé au micro de France Inter. Merci Agnès Buzyn d'avoir été dans le 7-9 aujourd'hui, 8h46.